Finalement, fin 45, j'ai terminé mes études de médecine à Lausanne. J'ai fait ma thèse et ma formation chirurgicale, en partie à Fribourg et en partie à l'hôpital de Genève. Après quoi, en 1954, j'ai été nommé directeur de l'hôpital de la Gruyère à Ria, où j'ai eu un immense travail de réorganisation. Cet hôpital s'est développé, et puis en 1968, exactement en mai 68, j'ai décidé de quitter l'hôpital de Ria, étant donné que les améliorations souhaitées ne se produisaient pas. Les trois chefs de service avaient décidé d'un commun accord de quitter le bateau si rien ne changeait. Je suis le seul à être parti pour Fribourg où je suis resté et j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 70 ans comme chirurgien indépendant. Voilà pour ma formation et ma carrière médicale. Pendant la fin de ma carrière, j'ai été nommé par le Conseil fédéral président d'abord local des examens fédéraux de médecine au siège de Fribourg, puis président du comité directeur de toute la Suisse, où je suis resté pendant 2 ans à la tête d'un comité. Et surtout, j'ai participé à la modification et à la transformation des études de médecine telles qu'elles existent maintenant. Naturellement, qu'à l'âge de 70 ans, le Conseil fédéral m'a rappelé qu'il était l'heure de donner l'émission, comme tous les fonctionnaires, ce que j'ai fait, et puis j'ai commencé ma retraite.
Vous aviez par contre déjà depuis longtemps participé à la vie locale d'une autre manière que la manière scientifique, puisque vous êtes également connu comme un historien du canton de Fribourg. Alors, en ce qui concerne cette partie-là de votre vie, pouvez-vous nous expliquer par quelles associations vous avez commencé et ce que vous avez inauguré spécialement dans le canton?
Alors, pendant que j'étais à Bulle, j'ai participé effectivement à un certain nombre de groupements, d'associations, d'organismes, et je faisais partie de la commission du musée gruyérien. Je faisais partie également du Heimatschutz de la Gruyère, et j'étais membre de différentes associations, comme la Société d'Histoire. J'ai été membre fondateur de l'Institut d'Héraldique, et à côté de mon travail de directeur d'hôpital, je tâchais de m'occuper d'histoire ou d'art populaire, ce qui m'a permis de passer sans difficulté psychologique grave de la période professionnelle à la période de retraite. Parce que vous savez aussi bien que moi que c'est un pas extrêmement délicat pour beaucoup de gens de se trouver brusquement sans fonction, sans responsabilité et sans aucun pouvoir. Alors, je dois dire que sans m'y préparer, j'avais déjà en réserve un certain nombre d'activités, ce qui m'a permis de me maintenir à peu près en bonne forme pour faire le passage sans difficulté.
Parlons par exemple de la Société d'Histoire du canton de Fribourg.
Alors, la Société d'Histoire du canton de Fribourg, je crois que j'ai été admis autour de 1954 ou 56, je ne sais plus exactement. J'ai été comme membre jusqu'au moment où un des présidents s'était fait nommer. Et puis, c'était un homme extrêmement calé et très distingué, mais qui, disait-il, et dit-il toujours, déteste voir du monde autour de lui. Ce qui fait qu'il a été pendant 10 ans président et il n'a jamais réuni la société. Évidemment que tout le monde s'inquiétait de voir cette société qui avait vécu, qui avait eu des grands présidents dans le passé, être finalement la Belle au bois dormant. Et un jour, le professeur Ruffieux, qui me connaissait, que je connais bien, me dit, mais dis donc, est-ce que tu crois pas qu'on devrait réveiller cette société d'histoire? Je dis, mais je n'attends que la personne pour réveiller cette société. Et il me dit, eh bien écoute, viens au prochain comité, on va tâcher de repartir. Alors j'ai été au prochain comité, ce qui m'a valu de faire partie du comité, et puis je crois qu'au bout de 6 mois, on m'a dit, il faut accepter la présidence. Alors j'ai dit, mais enfin moi je n'ai rien d'un historien, je suis un amateur, certaines personnes dans le pays, pour plaisanter, m'ont toujours dit que j'étais un amateur éclairé. Or, amateur éclairé, c'est jamais très bon signe. Bref, la société m'a nommé président, et c'est ainsi que pendant 10 ans également, je suis resté à la tête de la société d'histoire, jusqu'à ce que les années ayant passé, et ayant trouvé le successeur, le meilleur, et surtout meilleur que le président pour reprendre en main la société. C'est ainsi que M. Piton, le professeur Piton, lorsqu'il a eu le temps, a pu reprendre le flambeau, et ça m'a permis de me reposer et de m'occuper d'autre chose.
Vous dirigez aujourd'hui encore, je peux le dire, de manière perspicace et très chaleureuse, la société d'héraldique et de généalogie.
Alors, oui, j'ai fait partie comme membre fondateur de l'Institut d'Héraldique, qui est devenu d'Héraldique et de Généalogie. Et après le président fondateur, M. Page de Romont, il a aussi eu un temps où il était fatigué, où l'Institut ne faisait plus rien. Et déjà à ce moment-là, on m'a dit, écoutez, vous devez être président, etc. Il faut absolument recommencer. Alors, j'ai accepté, ce qui fait que je suis devenu président de l'Institut pendant, j'ose pas dire, 23 ans, je crois. Et finalement, après ce temps, j'ai demandé au comité et à l'Institut de me libérer, car il n'est pas bon pour une société que ce soit trop longtemps la même personne qui dirige. Parce qu'on prend des habitudes d'abord de se reposer sur le président, et puis on n'assure pas la continuité. Et je crois qu'il faut de temps en temps changer pour apporter de l'air frais et modifier un peu l'atmosphère. Vous savez, quand on est président, c'est très dangereux, ou quand on dirige quelque chose, il faut toujours penser qu'on n'est pas indispensable et que il faudra et il faut qu'à un certain moment on passe la main. Alors j'ai demandé qu'on me soulage. Je pense que l'année prochaine, M. Pedrazzini, qui a des obligations militaires encore cette année, pourra reprendre le flambeau de l'Institut d'Héraldique et de Généalogie. Ainsi, je n'aurai plus de présidence, puisque j'aurai abandonné successivement l'héraldique, l'histoire, l'aménagement du territoire et l'université populaire. Ça commence à être un peu lourd, et puis encore une fois, il n'est pas bon que les pouvoirs, si l'on peut appeler la présidence de ce nom, il n'est pas bon que ce soit toujours les mêmes que l'on retrouve partout.
On vous a conféré d'ailleurs la présidence d'honneur, n'est-ce pas, de plusieurs des sociétés que vous venez de citer, comme la Société d'Histoire, sauf erreur, et bientôt l'Héraldique et la Généalogie. Le fait d'avoir sauvé en quelque sorte, entre guillemets, malgré tout, en tout cas, permis la continuité de ces associations, qui ont une valeur énorme au niveau du patrimoine, vous a permis d'avoir plusieurs contacts avec nos autorités. Ce n'est pas toujours facile, je pense, de pouvoir publier. Et pouvez-vous nous faire part de votre expérience dans la publication?
Alors, dans la publication, écoutez, il faut en principe se débrouiller par ses propres moyens et ne pas trop attendre de secours venu d'en haut. En général, le secours vient une fois qu'on a réussi à faire quelque chose. Mais au moment où on n'est pas connu ou au moment où on part, il faut oser partir tout seul. On a des amis, mais des appuis officiels, c'est assez rare. Et la manne vient très difficilement et maintenant encore plus difficilement que jadis. Donc il faut avoir le courage de chercher, de rédiger et puis avoir la chance de temps en temps de trouver un éditeur ou un imprimeur qui veulent bien prendre certains risques à votre place. Parce qu'évidemment, publier un livre ou un ouvrage, ça représente une grosse somme à investir. Et en général, vous ne vous sortez pas de vos frais.
Quels sont les ouvrages les plus importants que vous avez publiés ou auxquels vous avez collaboré?
Alors, bon, j'ai collaboré à l'histoire du canton de Fribourg. Aux deux histoires du canton de Fribourg, j'ai rédigé un certain nombre d'articles, enfin une quantité, je ne veux pas trop dire qu'il y en a un peu beaucoup, mais enfin surtout dans le domaine de l'art populaire, bien sûr dans le domaine médical, dans les questions historiques, et je viens de faire publier un livre sur les stations balnéaires du canton de Fribourg, avec un titre un peu spécial, Histoire d'eau au pays de Fribourg. Parce qu'il faut tout de même que quand on écrive des ouvrages sérieux, on puisse quand même légèrement amuser ses lecteurs. L'autre livre que j'ai publié auparavant, qui semble avoir du succès, c'est l'histoire de l'art populaire. C'est en fait un survol de l'histoire populaire, de l'art populaire du canton de Fribourg. Le but, ça n'était pas d'approfondir tous les sujets, mais c'était de les citer. Et mon idée, c'était d'explorer un peu tous ces domaines de façon à donner l'envie à ceux ou celles qui en auront le temps ou qui en auraient le temps de faire des recherches plus circonstanciées et plus scientifiques. Et il me semble que dans ce domaine, effectivement, plusieurs personnes ont eu le courage de prendre ces sujets et de les examiner. Vous savez que l'art populaire a toujours été considéré comme un art mineur et que c'est seulement récemment que les hautes autorités universitaires se sont rendues compte que l'art était d'abord un art populaire avant d'être un art classique.
Et là, vous avez touché à de nombreuses couches de la population. Cela vous a permis donc de connaître encore plus à fond le patrimoine fribourgeois. Et quels sont les éléments du patrimoine fribourgeois qui vous semblent les plus importants dans l'art populaire?
En fait, je crois qu'il faut retourner la question. J'ai eu l'occasion d'entrer en contact avec l'art populaire en allant visiter les malades chez eux, dans les fermes. Et c'est en allant chez eux, en discutant avec eux, en regardant le milieu dans lequel ils vivaient, en les écoutant parfois parler le patois parce qu'ils ne savaient pas les termes en français, que tout à coup je me suis rendu compte au fond que cet art populaire était partout, que les gens le connaissaient, mais que la plupart des habitants du pays n'avaient pas l'impression que c'était important. À tel point que lorsque je les aimais, vous avez un bon meuble, vous avez un beau bahut, une belle armoire, et puis ça c'est intéressant. Dis, vous voulez l'acheter? Qu'on me disait, j'ai dit non. Le but c'est pas pour moi, c'est vous, vous l'avez, gardez-le, mais ayez, considérez ça comme quelque chose de beau. Alors, à discuter, effectivement, il découvrait que finalement l'armoire de famille, qui n'était peut-être pas en très bon état, avait une certaine valeur, non seulement une valeur esthétique, mais aussi une valeur de souvenir, une valeur d'histoire de la famille et de toutes sortes d'événements qu'on pouvait rattacher à un objet. C'était la même chose pour une cuillère, c'était la même chose pour un râteau ou n'importe quel instrument. C'était en particulier aussi valable pour une ferme. Alors quand vous allez devant une ferme qui est en train d'être réparée ou en train d'être transformée et que vous discutez avec son propriétaire, il faut y aller très doucement parce que le propriétaire estime que la ferme est à lui et si elle est à lui, il a le droit d'en faire ce qu'il en veut. Alors j'ai souvent dit avec beaucoup de ménagement, c'est vrai que cette maison, cette ferme est à vous, mais vous en êtes, à mon avis, le dépositaire unique pendant X années. Mais en fait, vous allez la transmettre plus loin. Alors est-ce que celui qui est un dépositaire passager a le droit de tout transformer, de ne pas respecter ? Alors, après des discussions plus ou moins difficiles, on arrivait finalement à s'entendre et on arrivait surtout à montrer à ces gens qu'il ne fallait peut-être pas modifier, il fallait conserver certains éléments, mais il ne fallait pas tout conserver. Il ne fallait pas conserver tout de telle façon que la vie moderne soit impossible. Et c'est là la difficulté, et c'est là que je me suis trouvé souvent en contradiction, pour ne pas dire en conflit, avec les monuments historiques, parce que parmi les responsables des monuments historiques, il y a quelques personnes qui n'arrivent pas à distinguer ce qui a de la valeur de ce qui est moins important, et il y a des personnes aussi qui simplifient, et tout ce qui a un certain âge, on le conserve, et puis c'est terminé. Or ça, c'est pas un choix. Bien sûr que le choix, c'est difficile. Et que le choix change suivant les périodes. Vous pouvez considérer quelque chose comme beau à une époque et 10 ans après comme une horreur. Donc il faut faire extrêmement attention de ne pas être trop sélectif d'après les critères en valeur à un moment donné. Il faut avoir un certain doute. Et le doute, c'est ce qui est le meilleur. Mais il ne faut pas un doute qui dure indéfiniment, parce qu'alors on fait rien. Il y a un moment où il faut trancher. Je fais partie de la commission d'art sacré, eh bien, c'est exactement le même problème. Si vous voulez tout garder dans une église ancienne, eh bien, il est pratiquement impossible d'utiliser l'église dans le but pour lequel elle a été construite, c'est-à-dire pour la célébration liturgique. Alors, entre être iconoclaste et tout enlever parce que les idées, les modes ont changé, et tout garder pour ne pas se tromper, eh bien, il faut trouver le cheminement intérieur. Et je rêve toujours au moment où les églises sont très nombreuses et les paroissiens moins nombreux, les prêtres disparaissent pour regagner le ciel, eh bien, je rêve toujours de garder ce qu'on éloigne des églises pour toutes sortes de raisons, de les garder, de les conserver dans des églises qui sont fermées. Ça nous servirait de grenier et ça éviterait de voir nos trésors ou une partie de nos trésors quitter ce pays et aller dans les collections japonaises ou américaines.
C'est très important. Et dans ce cadre de préservation du patrimoine populaire, quelle a été votre part dans la création du musée gruyérien qui répond assez bien aux critères, semble-t-il, que vous énoncez?
Alors, j'ai fait partie, en tout cas pendant 20 ans, de la commission du musée de Bulle, et nous avions comme responsable au sommet, au niveau de la commune, quelqu'un qui nous faisait des promesses et qui nous disait oui, un jour ou l'autre, on refera le musée, on l'améliorera. Mais nous étions bien persuadés que pratiquement tant que la personne en question aurait le poste supérieur des responsabilités, rien ne se passerait. Effectivement, il a fallu un changement à la tête de la commune de Bulle pour que, enfin, on étudie le déménagement du musée. Vous savez que le musée était dans un ancien hôtel qui avait un certain charme puisque c'était du moderne style, mais évidemment ça n'était pas pratique et surtout cette maison devait contenir le musée, la bibliothèque, des appartements et un café. Si on avait pu disposer de la totalité du bâtiment, je pense qu'on aurait fait un musée aussi intéressant que celui qu'on a construit, qui est parfait, mais qui est moderne, mais qui ne permet peut-être pas de mettre en valeur une partie des réserves, et je pense surtout au mobilier. N'est-ce pas ? C'est très difficile de présenter d'une façon agréable, d'une façon intéressante, des séries de meubles analogues dans un immense volume. Ce qui a été fait a été bien fait, mais par rapport à l'ancien musée où l'on voyait tout, évidemment dans un désordre indescriptible, on a fait une sélection. Alors, c'est très bien, mais en fait, il faudrait avoir le courage de temps en temps renouveler l'intérieur pour remettre en valeur le reste des collections. Ce musée a un immense succès, c'est vrai. Il représente l'aspect le plus intéressant de la région fribourgeoise, disons, campagne de langue française. Je lui reproche peut-être d'avoir un peu voulu conserver dans un ordre meilleur, mais tous les domaines qui étaient présentés auparavant. Est-ce qu'un musée de la culture paysanne de langue française a besoin de cet aspect science naturelle? Est-ce qu'il a besoin d'un certain nombre d'éléments qui concernent finalement la ville de Fribourg? On peut se poser des questions, mais comme tout ça peut changer, ça n'a pas une importance capitale. C'est un choix qui a été fait. Moi, j'aurais préféré qu'on se limite au domaine de l'art populaire, donc de langue française.
Et bien sûr qu'à Fribourg, il n'y a pas de musée analogue. Pensez-vous que un musée, par un grand musée de ce type par canton suffise, parce que en fait les collections qu'on pourrait imaginer à Fribourg, parlons de la Sarine, du lac, des districts plus au nord du canton, ont-ils un mobilier très différent du sud?
Oui, il y a quand même quelques différences, n'est-ce pas? La grosse différence vient de la langue, donc de la culture. Vous avez toute une culture dérivée ou analogue à la Suisse alémanique, où, par exemple, dans le mobilier, c'est du sapin peint, décoré, tandis que dans la partie qui parle le français, c'est du cerisier ou du noyer quand on est riche, ou du chêne quand on n'a pas autre chose, mais ce sont des bois naturels. Vous avez ici des meubles qui sont de la gruyère. Là derrière, vous avez un meuble qui est en fait l'armoire où on met les verres, où l'on mettait les verres à l'hôtel de ville de Voidance. Vous avez des tables comme celle-là qui sont des tables en fait de couvent, plus ou moins grandes, mais qui viennent de la gruyère. Donc on aurait pu, on devrait y arriver. Parce que multiplier les musées comme on l'a fait ces dernières années, non seulement dans le canton, mais un peu partout, ça paraît un peu aberrant. Parce que pour finir, on mettra tout dans les musées. Alors, de nouveau, comme pour les monuments historiques, il faut avoir le courage de choisir et ne retenir que ce qui a une certaine valeur, mais garder de la documentation. Parce qu'on ne peut pas tout conserver. Par exemple, pour une maison qui est, comme la plupart de nos fermes, n'est-ce pas, si vous les examinez dans le tiers inférieur, vous voyez que toutes les poutres sont pourries. Alors, refaire une ferme quand le soubassement ne tient pas, c'est à se demander si ça vaut la peine, parce que si vous faites des frais énormes pour refaire la base et que vous avez des chambres trop basses, que vous avez des portes où vous ne pouvez pas passer sans vous taper le front, si vous avez des fenêtres où l'air n'entre pas, c'est à se demander si c'est encore habitable. Alors que vous en gardiez l'une ou l'autre conservée, restaurée, comme modèle, et pour toutes les autres, eh bien, vous gardez les éléments intéressants ou bien des plans, des photographies, enfin bref, des documents. Et c'est la même chose pour les musées. On ne peut pas tout garder. Alors, il semble que dans le domaine de l'art populaire, on devrait pouvoir s'entendre pour mettre tout ce qui concerne la culture romande ou française et ensemble tout ce qui concerne la culture alémanique. Notez que le musée de Bulle, qui avait un certain nombre de meubles saint-ginois, les a effectivement déposés à Tavel. N'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire de donner, on peut déposer, déplacer. C'est la même chose pour les archives, n'est-ce pas? Dès qu'on veut rassembler les archives pour les protéger, on a l'impression qu'on arrache le cœur aux gens. Et il faut quand même se rendre compte que trop de communes, trop de paroisses ne conservent pas leurs archives et même les vendent. J'ai par exemple acheté ici à Fribourg une partie des archives de Charmey, numérotées, avec les dates. Tous les documents sont là. Des actes de fondation de chapelle, etc., etc. Donc, il n'y a aucune difficulté. Vous savez l'histoire qui est arrivée à Romont avec tous ces documents extraordinaires. Eh bien, est-ce qu'on les a donnés? Est-ce qu'on les a vendus? Est-ce qu'on les a égarés? Est-ce que quelqu'un les avait mis de côté? Bref, les archives de la plupart des communes, malgré les assurances des autorités, ne sont pas en sécurité. Et j'avais parlé à M. Brodard, quand il était conseiller d'État, je lui ai dit, mais écoutez, ne croyez-vous pas qu'il serait bon de rassembler les archives, ce qu'ont fait les Vaudois? Il ne s'agit pas de tout ramener à Fribourg, parce que ça, dans certaines régions, ce sera mal vu. Mais on peut les concentrer, on pourrait même imaginer les déposer à Fribourg, mais elles n'appartiennent pas pour autant à Fribourg. Pour le moment, ce n'est qu'un vœu pis. J'ai dit la même chose à l'évêché, parce que les archives des paroisses ne sont pas mieux surveillées. Ceci d'autant plus que maintenant, beaucoup de paroisses n'ont plus de curé. Tant qu'il y avait encore un curé, il les avait dans sa bibliothèque, il les gardait, mais maintenant, on a fermé les cures. Quand vous allez demander dans une paroisse qui n'a pas de prêtre titulaire où sont les archives, où c'est pas, ils sont quelque part. Alors, il est grand temps aussi dans ce domaine de sauver la mémoire, parce que quand elle est perdue, elle est perdue.
C'est important et j'espère que vous allez être écouté. De toute manière, c'était très important de le dire, et à force de le dire, peut-être que
ça finira par entrer dans la tête des personnes qui peuvent exécuter ce déplacement.
Je pense que c'est vraiment très très important, c'est juste. Et maintenant, vous-même, je n'ai pas calculé exactement votre âge.
75
ans, oui. Et vous avez une mémoire qui est, me semble-t-il, très fiable et qui remonte aux premières années d'enfance, ce qui est assez rare. Quels sont les changements? Commençons par les changements tout simples d'ordre spirituel que vous avez pu voir déjà dans la société, parce que le canton de Fribourg est un canton catholique. La Gruyère, comment voyez-vous l'évolution?
Eh bien, écoutez, quand je parle et je dis quand j'étais gosse, je suis obligé de me rendre compte que les années ont passé. tout ce qui paraît être de hier, en fait, est d'un certain nombre d'années, au moins 50 à 70 ans. Alors, les grands changements, c'est qu'au point de vue religieux, nous avons heureusement quitté l'époque où tout était commandé, tout était réglementé, où il n'y avait pas moyen de réfléchir, où toutes les réponses étaient données d'avance. C'était pratique et on constate qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent cette époque. Parce que si la réponse aux différents problèmes vous est donnée par quelqu'un d'autre, vous n'avez qu'à écouter ou lire le livre et vous avez la solution. C'est simple, mais c'est un peu fatigant et c'est un peu décevant dès que vous avez mis le nez hors du canton. Et alors, le fait d'aller ailleurs, d'entrer en contact avec d'autres mentalités, vous a fait découvrir qu'au fond, on était élevé en serre, une sorte de séminaire à l'usage des laïcs. Il n'y avait pas de différence, n'est-ce pas? Tout était programmé. Et si vous suiviez le programme, vous deviez réussir. Et la deuxième constatation, beaucoup plus importante, c'est que avant, plus vous vieillissez, plus vous avez d'expériences utiles pour les autres. Or, maintenant, c'est exactement le contraire. Plus vous êtes vieux, moins vous pouvez suivre, parce qu'il y a eu une modification des méthodes, une modification des techniques, ce qui fait que votre expérience ne sert à pas grand-chose. Je me rappelle de ce que disait un de mes voisins des Charlans, qui était paysan, qui m'a dit, quand mon père nous disait tu vas faire comme ça et qu'on le suivait, ça réussissait. Et maintenant que moi je suis vieux, je demande à mon fils qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Donc ça, c'est un changement énorme. Alors c'est pas un mal, la seule chose c'est qu'il faut s'adapter, n'est-ce pas? Plutôt que dire de notre temps c'était comme ça, on peut dire veuillez nous expliquer votre méthode. Bien sûr que quand il s'agit d'utiliser un ordinateur ou d'employer des appareils sophistiqués, on a beaucoup de difficultés. Mais les jeunes, et spécialement les gosses, savent très bien faire marcher les appareils qu'on est incapable de mettre en mouvement.
Et, au niveau politique, justement, donc, il y a eu donc, l'effet de serre, c'est-il aussi...
Oui, alors l'effet politique, il est manifeste, parce que moi j'habitais à Bulle, en face d'un café, qui était le siège du parti conservateur. Et dans la famille, on était plutôt radical de tradition. Ce qui fait que, en période d'élection, avant de lire le journal le lendemain, il suffisait d'aller voir si le restaurant en question était éclairé, ou si tous les feux étaient éteints. Feu allumé, ça voulait dire victoire conservatrice, qui était en général confirmée parce que le canon qui passait et qui allait tonner avait la bouche à feu noir, ce qui voulait dire que c'était les conservateurs qui avaient gagné. Pour ne pas les appeler par leur nom, ils ont appelé les déplais. Et puis, si le café était obscur et que le canon avait une bouche à feu jaune, on savait que c'était les radicaux qui avaient gagné. Et puis, il y avait aussi des bagarres dans certains cafés. Par exemple, il n'y avait pas d'élection sans des bagarres et des blessés dans la région de France, au-dessous des monts et du Giblou. Moi, j'ai été plusieurs fois en période préélectorale appelé parce qu'il s'était cassé des chaises sur la figure. Donc ça, c'était connu. Bon, maintenant, tout ça est fini. C'est un peu dommage, en ce sens que il n'y a plus d'enthousiasme. Je ne regrette pas les bagarres, je ne regrette pas la peste où mon copain Gérard Glaçon tirait à boulet rouge sur son ennemi, le préfet de Bulle, M. Barra, n'est-ce pas? C'était passionnant à lire. Maintenant, c'est d'une tristesse à mourir, parce que tout le monde s'en fiche, ou tout le monde est à peu près du même avis, ou ne dit pas avis. Donc, des journaux comme La Gruyère ont perdu leur sel en période électorale. Quant à La Liberté, on ne sait plus très bien quelle est sa couleur.
Les anecdotes, entre autres, que vous venez de nous énoncer sont vraiment très, très, très attachantes et importantes pour notre mémoire. En avez-vous d'autres, des anecdotes qui vous viennent comme ça? Je pense à par exemple, l'habitude des canons, vous venez de vous citer. Si on ne la connaît pas, on ne peut pas l'inventer. Y a-t-il d'autres choses?
Oh oui, il y a des quantités d'histoires. Vous vous souvenez, non, vous avez peut-être lu les histoires des bouchers de bulles, n'est-ce pas? Pendant la mobilisation, le préfet n'avait pas eu l'idée qu'il ne fallait peut-être pas un jeudi de foire essayer d'appréhender un cafetier qui faisait du marché noir, etc. Parce qu'était immédiatement l'émeute à Bulle et l'histoire des bouchers où le tenancier d'un café, pour ne pas l'appeler le Saint-Michel, vous voyez l'emblème que ça représente, était devenu un héros national analogue à Chenot. Merci, à Chenot. J'y pense parce que l'entrée du château est en face du monument Chenot, et comme gosse, je me souviens de l'inauguration du monument de Chenot, on hésitait pour savoir dans quel sens on allait tourner la statue. Est-ce que Chenot devait montrer le poing au château, représentant du gouvernement de Fribourg, ou est-ce qu'il devait montrer le poing en direction du nord? Et pour finir, on l'a mis poing, si je me souviens bien, face au château, mais tournant la partie arrière vers Fribourg, ce qui était l'équivalent. Donc vous voyez que ces histoires ne sont pas d'aujourd'hui. On racontait dans ma famille qu'un oncle et ses copains, à l'époque, donc ça fait bien 100 ans, le vendredi saint, persécutaient les juifs de la ville et qu'ils les obligeaient à se mettre à genoux, à demander pardon, etc. Donc, vous voyez, bon, c'était pas à la proportion de ce qu'on a vécu en Allemagne à la Seconde Guerre mondiale, mais malgré tout, il y avait quand même une certaine animosité contre ceux qui n'étaient pas catholiques. Et évidemment que les protestants, même s'ils étaient bien, on s'en méfiait un peu, n'est-ce pas? Il ne fallait pas trop les fréquenter, parce que ça aurait pu déteindre, même si on s'entendait bien, même si on vivait ensemble à l'école. Donc, vous voyez, ça, tout ça a changé. Une autre histoire que je vais vous raconter, et qui est beaucoup plus drôle. Vous savez qu'on n'aime pas les étrangers, et qu'on est très vite étrangers. Alors, quand j'étais à Bulle, je crois que c'était en 1956, c'est pas si vieux, comme je ne pouvais pas quitter la région parce que j'étais le médecin de l'hôpital, il fallait que je sois là, mais que malgré tout, j'avais quand même envie de quitter un peu ma pratique sans être trop loin de l'hôpital, je décide de chercher un endroit pour faire une maison de vacances. Et au miracle, j'en trouve un magnifique près du château des Verdes, des ruines du château des Verdes, et je vais là-bas, dans le village, et je demande: écoutez, est-ce que vous savez à qui appartient le terrain? Est-ce que vous croyez qu'on pourrait avoir quelques mètres carrés? Alors, ma grand-mère était des Charlances. Et la réponse a été la suivante: moi, je suis d'Ainé, on ne vend pas aux étrangers. Et comme le terrain auquel je pensais appartenait à quelqu'un qui habitait Écharlance, mais qui était de Voidance, il apprend ma demande et il me téléphone et me dit: moi, je vous vends, je suis étranger comme vous.
C'est une mentalité qui a perduré jusqu'à quand à peu près?
Vous savez, en fait, ça dure encore. On est toujours l'étranger de l'autre. Ça se marque avec plus ou moins de discrétion, mais malgré tout, et pas seulement chez nous, vous savez, Vous pouvez lire ce qui se passe à droite et à gauche. Vous voyez que dès que vous êtes différent, pas besoin d'avoir la peau d'une autre couleur, pas besoin de parler une autre langue, n'est-ce pas, toutes les histoires politiques dans les villages, en fait, c'était des histoires de famille, n'est-ce pas? Mais comme des histoires de famille ne pouvaient pas représenter une raison d'être partisan de l'un ou de l'autre, on y mettait un titre d'un parti politique. Mais en fait, c'est des rivalités de voisinage. Et vous savez, Cain et Abel, ils étaient frères, donc ça n'a pas changé.
Et la terre tourne. Dans le cadre de votre pratique médicale, à laquelle vous faisiez allusion, le niveau de vie, par contre, de la population a évolué.
Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Alors là, il faut reconnaître que ça s'est fortement amélioré. N'est-ce pas? Je me souviens encore des fermes où il fallait vraiment avoir du dévouement pour y rester et pour y vivre. Et je pense surtout aux mères de famille qui devaient faire tourner un ménage dans des conditions extrêmement difficiles avec une bande de gosses, souvent pas d'eau courante, mal chauffées, et des maisons en ruine les trois quarts du temps. Alors là, on a fait des progrès, on a restauré les maisons, on a mis l'eau courante, on a mis des sanitaires, etc. Et puis on a amélioré aussi la nourriture. Vous savez aussi bien que moi que jusqu'à la guerre, mon Dieu, la confiture et le beurre, c'était rare, c'était pour les jours de fête, c'était où le beurre ou la confiture, c'était comme au service militaire. Quand on avait l'un, on n'avait pas l'autre. D'autre part, la viande, c'était pour le dimanche. On tuait bien le cochon. On mangeait du lard avec des ruchetis le matin, n'est-ce pas? Donc il fallait avoir un certain estomac et surtout un foie très solide pour résister à ce régime. On mangeait beaucoup de lait, beaucoup de fromage. Mais au fond, les légumes, c'était plutôt rare. Le poisson, on n'en parle pas. C'était quasi introuvable. Sauf si vous étiez pêcheur, vous accrochiez de temps en temps des truites. Donc, l'alimentation était très simple, était peu variée. Et on comprend peut-être qu'il y avait pas mal de gens qui ne devenaient pas vieux, qu'il y avait beaucoup de tuberculose. Il y avait beaucoup de maladies et il y avait pas mal de misère. Il y avait encore à l'époque, quand nous allions à l'école, les scolaires. C'est-à-dire que pendant l'hiver, un certain nombre de nos camarades déclarés pauvres, je ne sais pas comment on faisait le choix, enfin, on les conduisait aux soupes scolaires. Et chaque automne, on distribuait les fameuses galoches avec les semelles en bois. Alors, au début, les semelles étaient complètement en bois. Vous imaginez le bruit que ça pouvait faire. Et puis, progressivement, quand il y a eu des vieux pneus, les gosses clouaient sous leur soc des semelles, des fragments de pneus. Donc, tout ça, c'est une époque qui a disparu, n'est-ce pas? L'idée d'aller prendre la soupe et les capucins, vous essayez de sonner. Je ne sais pas si on vous en donnera. Alors, une œuvre qui s'était développée, c'était ce qu'ils appelaient la goutte de lait, etc. Donc, on recevait dans les classes un certain nombre de petites bouteilles de lait qu'on distribuait obligatoirement à tout le monde et on était obligé de la boire. Au point de vue habillement, évidemment que l'habillement n'était pas très varié. Je me souviens. En changeant de classe, je ne sais plus, entre la troisième ou la quatrième, ou la deuxième ou la troisième, le premier jour qu'on était en classe, on nous demandait notre nom, de savoir qui on était, pour nous inscrire. Et je me souviens très bien que l'instituteur, arrivant vers moi, me dit « t'as pas besoin de dire ton nom ». Puis il me dit « oh, tu sais, on te reconnaît par les pantalons de ton frère ». Alors c'est vrai que les habits passaient de l'un à l'autre au fur et à mesure que l'un grandissait, L'aîné avait toujours les habits neufs et les autres héritaient des habits. On n'était pas malheureux, n'est-ce pas, parce que c'était tout le monde la même chose. On avait tous des tabliers à l'école, obligatoirement, n'est-ce pas. La forme variait. Les filles avaient une ceinture cousue, tandis que les garçons avaient la ceinture qu'on pouvait enlever. Et alors, la plus grande tristesse pour un garçon, c'était d'avoir un tablier de fille. Écoutez, on jouait beaucoup, on jouait par quartier, que ce soit à Fribourg, que ce soit à Bulle, et que ce soit à la campagne. À la campagne aussi, on jouait par bande, village contre village, n'est-ce pas? On faisait la guerre, on jouait aux gendarmes et aux voleurs. Ou on jouait, lorsqu'il était beaucoup plus drôle, c'est que dès que l'école était finie, on était obligé de jouer devant la maison où on habitait, enfin dans le quartier, de façon à ce qu'on soit quand même surveillé. Et alors on jouait au ce qu'on appelle aux poulettes, au nu, comme disent les Vaudois, aux billes. Et on jouait au milieu de la route, n'est-ce pas, sur la place. Alors je me rappelle que après 4 heures, on jouait au carré ou à la rigole, je crois que ça s'appelait. Alors on se mettait au milieu de la place, on dessinait le carré avec un bâton, n'importe. Et puis chaque fois qu'un véhicule arrivait, ben, on se mettait de côté. Ce qui nous gênait le plus, c'était l'autobus, parce qu'il était gros. Mais comme on savait à quelle heure il passait, on savait qu'on avait un bon moment pour jouer. Donc on n'avait pas de difficulté pour jouer au milieu de la route. Naturellement que ce n'était pas mouronné. Il y avait une poussière invraisemblable quand un véhicule osait traverser. La ville en été arrosait un petit peu. Dans les années qui ont suivi, on mélangeait à l'eau une espèce de mazout ou je ne sais pas trop quoi. Oh, oui, partout dans les rues. Ce qui fait que vous aviez les rues et qui étaient un peu tachetées, n'est-ce pas? Ça tenait un jour ou deux jours, à condition qu'il ne pleuve pas. Et puis alors, après sont arrivés les pavés, qui venaient de la carrière de Écharlens. Et puis, la première route goudronnée, c'était Bulle-Ria. Bulle-Ria était une route où on avait fait les premiers essais dans le canton, puisque l'hôpital de la Gruyère était à Ria et que les médecins de l'hôpital habitaient à Bulle. Et le médecin de l'hôpital, dont je me souviens bien, donc le grand-père Péroula, descendait en vélo. Il avait un vélo très haut et je ne sais pas pourquoi, au lieu de monter sur son vélo en appuyant un pied sur une pédale et la selle, lui avait trouvé moyen et il faisait tous les matins, il montait sur la tige du torpedo au niveau de la roue arrière, il faisait quelques pas puis hop, il sautait et se mettait en selle pour descendre à l'hôpital. Et comme de temps en temps il avait un peu soif, le saut n'était pas toujours réussi. Donc c'était des histoires comme gosses auxquelles on assistait. On s'amusait comme des fous à voir ce qui se passait. Une autre chose dont je me souviens aussi, qui j'espère ne doit plus se produire, il y avait dans le quartier à Bulle une pension tenue par des Italiens. C'est le quartier au centre de la ville, sur la place des Alpes. Et il y avait là une pension. Je peux bien dire le nom parce qu'il n'existe plus, Gandolfi. Et ces Gandolfi avaient un fils qui avait mon âge et qui était avec nous à l'école, qui était maigre comme un squelette. Et maintenant qu'on voit les images de Somalie ou d'ailleurs, je me dis au fond, c'en était déjà un, parce qu'il était méprisé. Je pense que c'était un enfant, peut-être qui était né en dehors du mariage ou avant le mariage. Il était maltraité et on en avait pitié parce que ce gosse ne mangeait pas et ses parents le battaient et l'attachaient par un pied à la table de la pension. Et je me rappelle qu'on le voyait sortir tirant par le pied cette immense table et battu par ses parents. Et la police de temps en temps intervenait, mais rarement. Heureusement pour lui, je crois qu'il est mort assez rapidement. Mais enfin, c'est des souvenirs qui nous reste. maintenant on commence à comprendre.
Années,
oh, bah, écoutez, ça c'était 23, 24, 27 même. Et puis alors, il y avait aussi autre chose, comme gosse, il y avait aussi dans le quartier un enfant qui était épileptique. Et au lieu de nous expliquer ce que c'était qu'une crise d'épilepsie, qu'il fallait lui aider, qu'il ne fallait pas en avoir peur, on nous disait, quand tu vois qu'il va tomber, qu'il fait une crise, pars. Alors, on était terrorisés en voyant la crise commencer, et cette pauvre gosse, on la laissait toute seule dans la poussière. Alors, si on nous avait dit, écoute, tu peux l'aider, tu peux faire quelque chose, c'est pas dangereux, c'est pas grave, je suis sûr qu'on aurait aidé. Donc, vous voyez, c'était une mentalité où l'épilepsie était une punition du ciel.
Il y a une évolution quand même de la notion d'altruisme, parce qu'on dit qu'autrefois, les gens se soutenaient plus les uns les autres. Actuellement, on donne plus facilement pour des associations, Croix-Rouge, etc. Est-ce qu'autrefois, en fait, on laissait plus chacun se débrouiller
Non, je ne crois pas. Moi, ce qui me frappe maintenant, c'est de voir le nombre de jeunes qui se dévouent, alors que dans le temps, on n'avait pas l'idée qu'on puisse se dévouer. Bon, on avait des sociétés, on avait les éclaireurs, les petites âmes, ou je ne sais plus, l'association religieuse, il fallait faire des sacrifices, il fallait faire des comptes, etc. Bref, mais cette idée de servir, d'aider les autres, elle n'était pas aussi développée que chez certains jeunes actuellement. Par contre, la charité était organisée, n'est-ce pas? Il y avait les dames de charité, il y avait Saint-Vincent de Paul, n'est-ce pas? On devait aller visiter les pauvres. Si vous voulez, c'était un rite. Il faut dire que ça, c'était probablement un héritage des lois fribourgeoises, qui étaient égales à celles des autres cantons, où on avait considéré la mendicité comme une plaie, n'est-ce pas? Et la meilleure façon de guérir la population, c'était de ne pas donner à ceux qui mendiaient, parce que la mendicité était un vice, et ce vice entraînait l'oisiveté et toutes les maladies qu'on peut imaginer. Donc, il ne fallait pas faire la charité sous cette forme, il ne fallait pas donner aux pauvres, il fallait donner, si vous voulez, mais par l'intermédiaire de certaines sociétés. Vous savez qu'il y avait une loi fribourgeoise qui punissait ceux qui donnaient aux enfants des familles qui mendiaient à Fribourg, en ville de Fribourg, pendant de nombreuses années. Ceci parce que c'était entre le père Girard, etc., toute la société économique, tous ces gens-là, qui avaient estimé que pour relever le niveau de la société, il fallait que les familles n'envoient pas leurs enfants mendier, mais qu'au contraire, on les instruise et qu'on leur apprenne un métier. Et c'est ainsi qu'on s'est battu. Alors, les pauvres, il y avait quelques familles de pauvres, connues, étiquetées, mais le dévouement était différent. Puis, n'est-ce pas, on dit que maintenant, ça a changé. Il faut dire que l'instituteur, le curé, certaines personnes, avec un certain paternalisme, aidaient les autres. Tandis que maintenant, tout ça, on estime que c'est des fonctions officielles, n'est-ce pas? Il faut un sociologue, il faut un psychologue, il faut aller chez un médecin, et que celui qui n'a pas un diplôme et qui n'a pas une fonction ou une profession sociale, il ne faut pas qu'il se mêle d'aider les autres. C'est peut-être un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, en ce sens que ça devient fonctionnarisé. Et la confiance n'est plus tellement la même, n'est-ce pas? Le confesseur, la personne qui vous donne des conseils, ça n'existe pratiquement plus, n'est-ce pas? Et c'est pas pris au sérieux. Alors que ça devrait peut-être exister. Et l'autre jour, je regardais une émission sur Mérin, la cité satellite, et ceux qui sont entrés dès le début regrettaient cette époque où ils vivaient ensemble, où ils ont construit en fait la société qui habitait, et maintenant c'est fini, et les jeunes se plaignent qu'ils sont délaissés. Tandis que les premiers habitants s'aidaient, ont construit, si vous voulez, une société, des habitudes, des associations, comme dans les villages. N'est-ce pas, dans un village, vous aviez comme point fixe l'instituteur qui était la bonne à tout faire, enfin l'homme à tout faire. Il était instituteur, il prenait la caisse de toutes les sociétés, il était directeur de chant, il chantait à l'église, il était encore secrétaire communal, etc., etc. Eh bien, cet instituteur était quelqu'un. Bon, à partir du moment où l'instituteur habite ailleurs, où l'instituteur ne veut faire plus que l'école, eh bien, toute la société se dissout. Et au moment où les gens travaillent ailleurs, où des gens d'ailleurs viennent habiter pour avoir la paix, vous n'avez plus une société. Alors ça devient très difficile de faire quelque chose qui tienne. Il y a heureusement encore les sociétés de musique, les sociétés de chant, qui tiennent encore, mais combien d'années ça durera?
Ce sont d'excellentes remarques. Pour terminer, parce que je ne veux pas non plus trop vous fatiguer, les personnalités qui vous ont marqué, à tous les niveaux, je peux dire, donc, ce qu'on a évoqué, spirituel, religieux, politique, également au niveau scientifique, intellectuel, à différents âges, et les faits marquants que vous trouverez importants pour la mémoire du enfant ou...
Oui, il y a des gens qui ont eu une importance, n'est-ce pas, mais au fond c'était des gens qui avaient un poste important mais qui l'ont bien rempli. Je pense, bon, comme tous, nous avons eu des instituteurs plus ou moins qualifiés, qu'on chahutait plus ou moins. Alors souvent, les souvenirs, c'est les souvenirs des chahuts qu'on avait fait, plutôt que du sérieux. Mais je pense à un instituteur qui après est devenu professeur, hein, M. Bourcard de Bulle, qui était un homme intègre, sévère, très conscient de ses devoirs, qui est devenu d'ailleurs colonel dans l'armée, et qui est en fait un homme qui avait une discipline et une intégrité. Bon, maintenant peut-être que ça passerait plus. Je pense à un directeur d'école secondaire.
Je veux juste situer, M. Bourquet, dans quelle année?
Alors, c'est pas compliqué, c'était en 1933-34, après il a passé à l'école secondaire comme professeur, et puis moi je l'ai encore connu comme... mon commandant militaire à la place de Bulle. Donc je me suis toujours bien entendu avec lui, mais c'était un esprit qui était en fait un exemple de l'époque, mais qui était absolument intègre et objectif à tout point de vue. Mais maintenant ça passerait plus, parce que quand une chose était juste, eh bien cette chose seule existait, une autre possibilité n'était pas envisageable. Je pense à un directeur de l'école secondaire qui était un ecclésiastique, mais qui adorait jouer aux cartes. Alors évidemment n'était pas toujours à l'heure, à 2 heures, parce que la partie de cartes n'était pas terminée. Alors on rattrapait le temps, mais à part ça il nous avait ouvert l'esprit. Il faut se représenter une ville comme Bulle. À l'époque c'était des commerçants, des marchands de clous, comme on a toujours dit. Donc l'ouverture intellectuelle n'était pas le souci principal de la majorité des gens. Pas ce qui comptait, c'était le commerce et le rendement. Et encore maintenant, si vous voyez la différence de mentalité entre deux villes comme Fribourg et Bulle, Bulle est beaucoup plus active dans le sens de l'efficacité. Par contre, Fribourg est peut-être pour une partie de sa population beaucoup plus intellectuelle, mais beaucoup moins efficace. Et vous voyez que maintenant, l'industrie quitte Fribourg et que Bulle, au contraire, développe. N'est-ce pas ? C'est assez étonnant de voir ces deux types de mentalités. Il y a une grande différence. Eh bien, évidemment que quelqu'un qui était à l'école secondaire représentait un autre milieu, de même que le curé que nous avions à l'époque, et qui avait été professeur au collège, si je me souviens bien, je crois qu'il était professeur de géographie, était un type qui avait un niveau qui, on avait l'impression qu'il nous apportait quelque chose de nouveau, sans du tout mépriser les autres, mais les autres, c'était l'immédiate. Oui. Alors ça, c'est un énorme changement. Puis alors après, bien sûr que l'arrivée, moi je suis venu à Fribourg au moment du tir fédéral, et la première chose que j'ai faite en entrant à l'internat, le jour de mon arrivée, on avait encore congé, c'était de monter au sommet de la tour Saint-Nicolas pour voir la ville. Et c'était de nouveau une découverte. Écoutez, un autre souvenir, puisqu'on parle de Fribourg et la région, il y avait à Corbières un pont suspendu qui était remplacé en 1933-1934 par le pont actuel. Eh bien, quand nous descendions à Fribourg, je me rappelle très bien, c'était des tout petits autobus avec des fenêtres en haut, des carreaux en couleur. Alors, à l'entrée du pont, on descendait, l'autobus passait à vide, puis nous traversions après à pied. Puis on remontait sur l'autobus, de façon à ne pas surcharger le pont. Alors, vous voyez, tout ça, c'était des souvenirs extraordinaires. Eh bien, l'arrivée à Fribourg, c'était de nouveau un changement, parce qu'on avait l'habitude dans les études d'avoir pratiquement toujours le même maître ou deux ou trois, puis tout d'un coup on se trouvait mélangé avec des gens venant de un peu partout, avec un uniforme bien sûr, mais une atmosphère totalement différente. Alors là c'était de nouveau un pas. Alors on a eu des professeurs de nouveau qu'on a chahutés, des professeurs qui étaient des originaux extraordinaires. Je vous cite un curé qui s'appelait Sauzre, et l'abbé Sauzre, il faisait des sermons tellement extraordinaires que pour finir, on lui avait interdit de prêcher, parce que je me rappelle d'un sermon au collège, il avait commencé « Au dernier salon de l'automobile, on a trouvé un nouveau système de démarrage ». Alors vous imaginez, ainsi en est-il de la vie spirituelle. Eh bien, ce curé qui était un original fait et fini, mais était plein de bon sens. Et il nous avait ouvert l'esprit. Lui ne voyait rien, mais à nous, les yeux se sont ouverts. Eh bien, je me souviens de premier examen de religion. Il posait des questions brèves, il fallait répondre par un mot, parce qu'il ne pouvait pas bien lire, donc il arrivait juste à lire un mot. Alors, on devait répondre, je ne m'en rappelle plus, la question, mais la réponse était liturgie. Il nous rend nos copies. Puis il nous dit un. On avait presque tous un. Puis on lui dit, mais enfin quoi, on a écrit juste, on a répondu juste. Il nous répond, vous avez l'esprit mal fait, vous avez écrit liturgie avec H, des gens qui compliquent les choses simples, terminé. Donc vous voyez, c'était, n'est-ce pas, c'était un peu extraordinaire. Alors ça, c'est des choses évidemment qu'on n'a pas pu oublier. Bon, alors après ça, il y a eu l'université, et j'ai eu la chance d'avoir le professeur Koulouma pour l'anatomie, qui était un Français venant de Toulouse, avec l'accent, et qui était un type brillant, mais qui malheureusement, bon il est mort maintenant, a mal fini sa carrière fribourgeoise parce qu'étant français, il s'est introduit imprudemment dans la politique partisane du pays, ce qui fait qu'il a dû plus ou moins quitter les lieux, alors que c'était un type extraordinaire qui nous a fait des cours merveilleux que jamais je n'ai entendu ailleurs, avec un tel niveau et une telle ouverture d'esprit. Donc voilà, quelqu'un. Ensuite, j'ai connu le fameux docteur Audi, chez qui j'ai été assistant. Tout le monde se souvient encore des histoires du docteur Audi, qui était un chirurgien qui était capable d'être un brillant opérateur, qui était un type extrêmement qualifié, qui a eu des histoires à n'en plus finir alors qu'il était à Genève, qui a été nommé à Fribourg comme chirurgien et qui a eu des aventures avec le conseiller d'État et avec un des conseillers d'État c'était vraiment ubuesque. Bon, il a finalement quitté Fribourg et le calme est revenu au niveau de la chirurgie de la ville, mais c'était un type extraordinaire quand il voulait. Mais d'autres fois, il était impossible. Si vous avez l'occasion de lire ses livres, Autant du cannibale, etc., vous voyez tout de suite le style du monsieur. Je me souviens, en cours d'opération, il était impatient et la sœur qui assistait lui passait des fois l'instrument qu'il ne voulait pas, ou ne lui passait pas celui qu'il désirait. Eh bien, régulièrement, après les séances opératoires, les instrumentistes allaient dans la cour de l'ancien hôpital cantonal récupérer le matériel qu'il avait passé par-dessus bord. Et je me souviens d'une sœur stagiaire, je crois qu'elle vit encore, il l'avait terrorisée au point que cette sœur était incapable, quand il lui avait demandé « Comment vous vous appelez ?», elle ne savait plus son nom. Donc ça, c'est aussi une époque qui est heureusement terminée. On nous demandait d'être prêts, stérile, les gants, le malade endormi, 8h du matin, et avant 11h, l'opérateur n'arrivait pas. Donc ça, ce sont des méthodes et des abus qui, heureusement, ont disparu. Mais tout ça, je l'ai vécu, et j'ai de la chance d'avoir vécu la chirurgie, disons, des précurseurs, et puis le passage à la chirurgie actuelle, c'est-à-dire la narcose moderne, c'est-à-dire les méthodes de réanimation, c'est-à-dire la chirurgie beaucoup plus douce et beaucoup plus fine. Donc, je vous rappelle les premières opérations, c'était un combat avec le malade, parce qu'il était endormi juste la place. Et on opérait les estomacs, on enlevait un estomac sur un malade qui avait une petite anesthésie de surface sur la peau du ventre. Évidemment, quand vous tirez sur l'estomac, vous tirez sur les vésicules biliaires, ça doit faire mal. Et je me rappelle de l'opérateur hurlant, vous ne pouvez pas rester tranquille, ça suffit, on ne peut rien faire, etc. C'était vraiment des fois des combats. Et d'autres fois, alors vous aviez des narcoses qui se faisaient au masque, ou le malade étouffait, ou le malade vomissait, n'est-ce pas, il venait noir. Alors, c'était des drames parce qu'il fallait le basculer, pour vider les bronches, parce qu'on ne savait pas encore aspirer. Eh bien, il fallait arrêter d'opérer pour réanimer. Donc ça, c'était une période héroïque. Et puis progressivement, à partir de la fin de la guerre, alors, sont arrivées d'Amérique les nouvelles méthodes. Je me rappelle d'un de mes patrons de Genève qui était arrivé avec le fameux temps total qu'on injectait intraveineux. Et un jour, j'étais assistant, ça c'était près de la guerre, le professeur de médecine interne arrive pour nous présenter un malade et dit à mon patron, le chirurgien, écoutez, il faudrait opérer ce malade, mais il est un peu fragile, vous ne pourriez pas l'endormir avec votre nouvelle anesthésique, qu'il appelait le pain complet, au lieu de total. Voilà pour vous dire tout ce que ça représentait. Donc c'était... Ah oui, c'était extraordinaire, n'est-ce pas? Moi, je me souviens, par exemple, j'avais comme assistant, première année à Genève, on m'avait donné les grands-mères. J'avais une salle des grands-mères qui toutes étaient tombées, fracture du col du fémur. Ben, il n'y en avait aucune qui survivait. Et puis, ils sont arrivés en 50, je crois, les premiers anticoagulants. Il y avait de la littérature, on nous disait que ça évitait les embolies, etc. Et puis, voyant mourir toutes ces grand-mères, l'une après les autres, on les opérait, c'est une embolie, c'était le départ. Mais c'est quand même affreux de ça. Alors, je dis au patron, je dis, mais monsieur, vous ne croyez pas qu'on pourrait, puisque ailleurs, on emploie ces anticoagulants pour éviter les embolies, on devrait essayer. C'est pas un essai dangereux, puisqu'on peut doser la substance, on peut éviter les hémorragies, mais on peut aussi éviter les embolies, puisque ces dames meurent toutes d'embolies. Et puis il me dit, bah, moi, si tu veux, parce qu'il nous tutoyait, si tu veux, vas-y. Bon, alors avec les chefs des cliniques, on a fait le plan, et au miracle, les grands-mères vivaient. Alors, c'était simplement pour vous dire le commencement. De même que les fractures, on ne les opérait pratiquement pas. Ou bien on les opérait, mais c'était un drame parce que nos vis cassaient, nos appareils n'étaient pas ouf. Alors, quand j'étais chef des cliniques, j'avais connu à Genève un mécanicien qui était très calé, qui faisait tous les instruments, les outils qu'on voulait. Et il y avait, dans les rues basses de Genève, un magasin qui a disparu, où on vend marchand de fer. Il y avait toutes sortes d'instruments extraordinaires, et il y avait les premiers tournevis en chrome vanadium, donc qui ne rouillaient pas. Alors que les tournevis médicaux, quand vous aviez une vis, ou bien la tête de la vis cassait, ou bien le tournevis était voilé. Alors, dans ce magasin, j'achète le tournevis, mais quand la poignée était en substance qui fondait à la stérilisation, j'ai été chez celui qui nous faisait les appareils, je lui ai dit, écoutez, il faut me changer le manche. Et c'est ainsi qu'on a commencé à avoir des instruments utilisables et pas tous les pépins qu'on avait au début.
Là, vous êtes un précurseur, vous avez été un précurseur en médecine autant qu'un sauveur en histoire. Donc,
je ne sais pas, mais enfin, c'était une période où on pouvait. Maintenant, on ne peut plus se permettre ça, parce que tout est réglementé et on a des moyens de progresser avec sûreté. Mais à l'époque, c'était un peu une aventure et il fallait oser, sans prendre des risques trop grands.
Désirez-vous annoncer encore quelques autres personnalités ou considérer ?
Non, je crois qu'à part ça, bon, on voyait toute la... évoluer tous les hommes politiques, n'est-ce pas, entre autres M. Piller avec son université. On assistait à toutes les joutes, à toutes les culbutes provoquées ou inévitables. Donc moi j'ai jamais fait de politique, je me suis contenté d'observer. J'admire ceux qui ont le courage de faire la politique, mais je ne peux pas les suivre parce que il me semble que quand on a réfléchi à un problème, qu'on a trouvé une solution et qu'on a examiné le pour et le contre et qu'on pense que cette solution est la moins mauvaise ou la meilleure, composer avec des gens de différents partis, faire des compromis, ça n'arrive pas, ce qui fait que j'ai toujours préféré laisser la politique aux autres.
Une suggestion, pourquoi ne feriez-vous pas quelques pages de mémoire si bien sûr, si vous avez un peu de temps, il y a certainement encore de nombreuses anecdotes qui mériteraient d'être couchées sur le papier, vu l'évolution du canton à laquelle vous avez participé.
Je ne sais pas si j'ai participé, j'ai en tout cas assisté. Bon, écrire ou ne pas écrire, ça peut être intéressant en ce sens que s'il s'agit de sujets qui s'étendent au reste de la population, mais comme médecin, c'est assez difficile d'écrire des mémoires parce qu'il y a toujours des personnes données qui sont derrière. Et d'autre part, il faut faire très attention, il ne faut pas écrire son apologie. Que la mort soit arrivée, puis c'est les autres qui vous disent tout le bien qu'ils n'ont pas dit auparavant.